Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Un peu d'air frais.
داشو يا زرير داشو لي شفير سوى تنتي يمدي عمريو غني دا دير غني دا الحير وساني قيز دا دوليو يبغاد ياشلو غرفين يزرع يفاق سر وردي تفسوس يوكا جاسو عصم عدى المحباس دام الزوالوس داشو يا زريق داشو مش في عصي وتديان دي العمريو غني دا دي غني دا الحير وساني قرز دا عدوليو وسناتين أمزون حبسان يا ويدي جربان تزرم ميتي دابوين تمدان يموت لعزيزا فخام ميتي دابوين تمدان يموت لعزيزا فخام
Cet été, nous avons promené notre micro aux états généraux du film documentaire à l'USAS, où nous avons rencontré Stefano Savona, le réalisateur du documentaire Tahrir.
Je suis Stefano Savona, j'ai fait des films documentaires depuis quelques années.
Et alors donc vous êtes aujourd'hui à l'USAS, vous présentez votre film Tahrir.
Oui, je présente des films en fait, c'est Tahrir, que c'est la chronique de la révolution égyptienne, du bonne partie de la révolution, j'ai pu être là dans la place, donc c'est une chronique des jours de la révolution. Et après, j'ai présenté un autre film que j'avais terminé juste avant, qui s'appelle Palazzo delle Aquile, c'est une autre chronique de notre mouvement des gens organisés, cette fois à Palerme, c'est l'occupation de l'hôtel des villes de la part d'une vingtaine de familles de sans-abri qui s'est passée il y a quelques années à Palerme, et c'est un film auquel j'ai travaillé plusieurs années. Donc c'est des mouvements de démocratie directe, si on veut, l'une on peut l'appeler une révolution, l'autre ce n'est qu'une occupation qui a en plus n'a pas abouti à grand chose, mais c'est quand même des moments d'espace politique qui s'est créé dans des milieux qui auparavant n'étaient pas politiques du tout, parce que Palerme et Le Caire peut-être sont les deux villes que j'aime le plus, parce que bon, je viens de Palerme, j'ai beaucoup habité au Caire, mais c'est les endroits où j'aurais imaginé le moins probable la naissance des mouvements de ces gens.
Donc c'est ça qui vous a décidé finalement à faire des films sur ces lieux-là, c'est l'improbabilité d'un mouvement social.
Mais non, finalement, Palerme, c'était par hasard, parce que c'est ma ville. Donc, j'ai suivi des personnes pendant une campagne électorale. Et après, ces personnes n'ont pas réussi à rentrer dans l'hôtel de ville parce qu'ils ne sont pas été élus. Mais il y avait quelqu'un qui a été élu, quelqu'un non. Mais après, ils ont occupé ensemble l'hôtel de ville. Ils ont mis en scène une sorte de... démocratie symbolique dans l'hôtel de ville. Donc là, c'était le hasard. Et l'autre chose, c'était le fait que la révolution a éclaté en Égypte, comme ça, soudainement, après la Tunisie. Et je ne pouvais pas m'empêcher d'aller filmer, parce que là, c'était vraiment un endroit que j'aimais beaucoup, le Caire, et quelque chose que j'aurais toujours rêvé de filmer, la révolution. Donc les deux choses en même temps, c'était quand même impossible de ne pas aller. Donc même si j'étais en train de finir l'autre film, j'ai tout quitté, je suis parti, je suis allé filmer la révolution.
Et alors vous connaissiez du monde, on voit qu'il y a quelques personnages qui se dégagent donc dans le film Tahrir. Vous êtes allé voir des gens que vous connaissiez déjà auparavant, ou c'est en fait sur place que vous les avez rencontrés?
Non, finalement, je connaissais beaucoup de gens au Caire, mais ces gens n'étaient pas dans la place. Donc, mais tout le monde était là. C'était une situation d'ouverture totale. Donc, une fois qu'on faisait partie du mouvement, on avait accès à tout le monde. Tout le monde parlait avec tout le monde. J'avais du mal à comprendre qui se connaissait déjà avant, qui venait de se rencontrer. C'était vraiment difficile. On voyait des gens qui parlaient, qui se disaient beaucoup de choses, même intimes. Et après, au bout d'une demi-heure, ils se demandaient « Mais tu t'appelles comment ?» Et avec moi, c'était presque la même chose. Moi, je ne parlais pas la langue, mais en même temps, il y avait beaucoup de gens qui parlaient anglais. Donc, c'était facile de poser des questions, de suivre des gens. Tout était... Il y avait une dimension vraiment spéciale, spécifique à des situations comme ça. Et tout était facile dans le sens de la relation. Après, les difficultés étaient autres, mais pas celles d'adresser la parole à quelqu'un ou de les filmer. Là, c'était la chose plus facile.
Et alors, vous avez filmé pendant combien de temps?
J'ai filmé pendant 2 semaines, du 30 janvier au 12 février, le lendemain de la chute de Moubarak.
Et vous êtes resté pendant toute cette période sur la place?
Oui. Jour et nuit, j'ai m'éloigné seulement pour aller recharger les batteries de ma caméra ou sinon décharger les cartes, mais pas souvent non plus parce que j'avais beaucoup de batteries. Donc, et c'était vraiment la chose plus dangereuse. Sortir de la place, c'était vraiment le danger. Le seul vrai danger, c'était pour moi, pour les choses que j'avais filmées, c'était sortir de la place. La place, à la limite, j'étais en sécurité, si on peut dire, parce que quand même, d'un point de vue paradoxal, mais la foule se protégeait l'un avec l'autre, mais alors qu'ailleurs, c'était quand même... Tout pouvait se passer ailleurs de la place.
C'est-à-dire que là, il n'y avait pas de problème pour sortir la caméra, vous pouviez filmer très facilement?
Oui, il n'y avait aucun problème, sauf pour des choses un peu plus délicates. Ça m'est arrivé quand on m'a dit « Mais pourquoi tu filmes cette fille qui est voilée alors qu'il y en a pour plusieurs qui ne sont pas voilées? Est-ce que tu veux donner une image de la révolution comme une révolution gérée par l'extrémiste et musulman? » Et là, je me suis bagarré avec ce mec qui m'a dit ça, parce que c'était évident que ce n'était pas le cas. Mais là, j'ai eu un petit problème, parce que quand même, heureusement qu'il y avait mes amis, les gens que j'avais déjà filmés les jours d'avant, qui ont expliqué que ce n'était pas du tout le cas. Donc, il pouvait y avoir des malentendus de ce genre. Mais pour le reste, c'était vraiment très facile. On ne fallait même pas la sortir. La caméra était là, c'est parti du jeu, du début à la fin.
Et enfin, moi, je trouve justement que le personnage de cette jeune femme avec le foulard que vous suivez, je le trouve plutôt intéressant. Comment cette relation s'est créée avec cette personne?
Mais c'est elle qui m'a vu filmer et m'a dit « Pourquoi tu ne filmes ici aussi ?» Donc, quand j'ai trouvé intéressant, j'avais un peu écouté et qu'on était en train de parler avec son ami à côté. Donc, j'ai dit « J'ai déjà vu l'idée de la filmer. » Et c'était elle qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne nous filmes pas ?» Donc, j'ai continué à filmer et elle est rentrée dans le cadre et n'est plus sortie.
Et elle était seule ou elle était accompagnée en fait?
Elle était avec les amis qu'on voit dans les films. Il y a une fille avec elle. Les deux, il y a une petite bagarre sur le fait de comment écrire la nouvelle constitution ou pas. Et donc, elle s'était connue il y avait une semaine, donc elle était devenue amie. Je les ai rencontrés ensemble dans la place. Après, il y avait les groupes des autres personnes qui étaient quand même en relation. Justement, c'était difficile de comprendre s'ils venaient de se connaître ou s'ils se connaissaient depuis longtemps, mais quand même, je les ai trouvés déjà dans une sorte d'intimité entre eux.
Parce que moi, ce que je trouve intéressant par rapport à la situation des femmes, c'est qu'en fait, moi, je me pose la question, est-ce qu'elles arrivent toutes seules, sans amis, sans mari, sans famille? Ou est-ce que quand même par rapport aux hommes elles sont, je sais pas en fait, est-ce qu'elles ont une démarche vraiment étonnante par rapport à la situation en Égypte, ou, en fait on voit beaucoup de femmes finalement sur la place Tahrir.
Oui, elles venaient seules ou en groupe de copines. Cette fille m'a dit après, quand je suis retourné en Égypte quelques mois après, je lui demandais si elle pouvait venir avec ses amis pour faire une balade et à l'extérieur du Caire. Elle m'a dit non, je ne peux pas, parce que ma mère elle n'aimait pas, je ne peux pas sortir avec des copines, des hommes. Je dis, mais on va se balader tout simplement. Non, on ne peut pas. Mais alors que pendant la Révolution, elle était toujours là-bas avec beaucoup de monde, toute seule, et la question ne se posait pas. Donc, évidemment, dans les temps des paix et des guerres, il y a des règles différentes d'une certaine façon.
Et j'imagine, vu le contexte et tout ça, que tu filmes et tu prends le son tout seul. Tu peux nous expliquer un petit peu ton dispositif. Et si tu étais seul à filmer aussi, est-ce qu'il y avait d'autres gens qui filmaient sur la place? Parce que visiblement, là, il y a quand même, de ce que tu racontes, les gens qui sont à Tahrir, ils demandent à être filmés. Ça, c'est assez, dans notre contexte, ça pourrait être un peu, il pourrait y avoir une méfiance, je parle en française, c'est sûr. Peut-être que, c'est sûr qu'en Égypte ça va être différent, mais il n'y a pas de cette méfiance des médias qu'on a dans les luttes en France, par exemple.
Non, là, par contre, il y avait de la méfiance aussi, mais il y avait surtout le besoin de se faire écouter à l'extérieur de la place, parce que la télé égyptienne quand même avait un regard sur la place complètement inventé, disait n'importe quoi. Donc les gens appelaient à la maison et les autres lui disaient, mais on dit que vous faites ça et ça, et c'était pas du tout vrai. Donc quand même, ils avaient vraiment besoin d'être filmés, mais d'être filmés surtout par les télés. Moi, j'avais tout de suite expliqué que j'étais pas une télé, donc c'était pas le cas. Mais il y avait plusieurs télés, il y avait Al Jazeera, il y avait BBC. À un certain moment, il y avait vraiment beaucoup de médias, surtout quand la place est ouverte carrément. Donc, il y avait les télés, ils venaient, ils partaient. Donc, c'était pas au début, parce que pendant 5-6 jours, c'était beaucoup plus difficile de sortir et rentrer. Mais dès que la situation s'est fait un peu moins tendue, il y avait beaucoup de télés. Et sinon, moi, j'étais tout seul avec mon petit appareil photo et un enregistreur Zoom, comme c'est là que vous êtes en train d'utiliser, mais sans micro, avec seulement le micro du stéréo du Zoom, c'était placé sous la caméra. Donc c'était ça, le dispositif technique était très, très simple. Sauf que je déplaçais de temps en temps les Zooms, je les mettais au centre des gens quand les gens parlaient entre eux. Donc c'était plus pratique pour les sons. Sinon, on restait toujours sous la caméra. Mais là, la situation était telle que je ne pouvais pas essayer d'avoir autre chose, parce que je devais quand même protéger mon anonymat, surtout avant d'arriver sur la place. Donc la caméra, c'était un appareil photo qui était le plus petit, avec une petite un objectif plutôt petit aussi. Donc c'était quand même, il n'y avait que ça, et je ne pouvais pas amener aussi des monopieds, d'autres choses qui pourraient aider, mais je ne l'ai pas fait justement pour être plus sûr de pouvoir arriver avec tous mes appareils dans la place.
Et en fait, on a l'impression, en regardant le film, qu'il y a un peu tous les milieux sociaux sur la place Tahrir. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment si c'est une impression ou si tu as pu le constater.
Oui, ça, c'était la chose plus étonnante du tout début. J'ai pu voir qu'il y avait vraiment tout le monde, pas que tous les milieux sociaux, et tous les côtés politiques. Tout le monde était là. Il y avait l'autre bourgeoisie, la classe moyenne plus petite. C'est peut-être, mes personnages sont surtout issus de ces niveaux sociaux, donc des gens qui ont étudié, qui parlent les langues, qui s'expriment très bien, qui ont une culture, mais qui n'ont pas d'argent, en gros. Donc, qu'ils sont quand même, surtout avant, qu'ils avaient beaucoup de mal à trouver un travail. Donc, c'est une grosse partie de la Révolution. Et ça, en même temps, il y avait les gens qui venaient de la campagne, habillés encore avec les vêtements typiques des villages, de la campagne. Et bien, il y avait l'autre bourgeoisie avec des gens vraiment avec beaucoup d'argent, parce qu'en Égypte, il y a aussi ça. Et ils étaient présents, et des gens qui parlent anglais très bien, qui disaient, nous, on n'est pas là parce qu'on a besoin d'argent parce que nous, on gagne 3 000 $ par mois. Donc, ce n'est pas, c'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour la démocratie. Donc, il y avait plutôt tous les côtés de la société du tout début. Et c'était des gens qui se sont connus à la place Tahrir aussi. Donc, l'essence de cette révolution, c'est aussi une grosse prise de conscience de la société, de soi-même. Parce que dans une place comme ça, avec tout ce temps qu'on passe finalement à parler, et c'est un moment où on a vraiment, on s'est fait une idée des autres gens qui sont les composants de la société. Alors qu'avant, beaucoup de gens avaient des voix, des vues plutôt stéréotypées, les citoyens des gens de la campagne ou vice-versa. Alors là, ils avaient un langage commun, que c'était les dialectes égyptiens, et ils parlaient, ils se connaissaient, ils s'écoutaient et parlaient. Donc c'était ça aussi, c'était une partie de la chose qui rendait la situation très intéressante à filmer, à vivre aussi.
On se demande qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, en fait, qu'est-ce qui a fait que comme ça, d'un seul coup, ça a fonctionné.
Mais là, les gens me disaient, on est sorti sur la place, on s'est convoqué avec Facebook, avec les réseaux sociaux. Et là, déjà, il y avait des nombres exceptionnels parce qu'on voyait sur la page 600 000 personnes. Donc, il y avait déjà la possibilité que la chose pourrait être une chose jamais vue. Et une fois dans la place, ils ont vu qu'il c'était plusieurs milliers, alors que normalement, c'était quelques centaines. Et donc, que la police était minoritaire, que la police avait peur d'eux. Et à ce moment-là, c'était déjà les débuts de la fin, disons. Ils ont compris qu'ils pouvaient arriver jusqu'au bout et qu'il fallait arriver jusqu'au bout parce que ce n'était pas une situation qui aurait pu se passer à nouveau dans le futur. Donc là, ils ont pris conscience de leur force et ils sont arrivés à la fin.
Et alors, est-ce qu'il y avait, on parlait beaucoup de la Tunisie, est-ce que ça a été un élément aussi moteur?
Oui, oui. Dans le mouvement qui est né sur Facebook et après qui est descendu dans la place, l'idée que ces choses avaient déjà été faites par la Tunisie a été quand même centrale. Ils avaient peur parce qu'ils disaient, ici en Égypte, il y a beaucoup, comparativement, il y a beaucoup moins de gens qui ont Facebook qu'en Tunisie, un pourcentage minoritaire de la société. En gros, surtout les gens des villes, du Caire, des autres villes. Donc, ils avaient peur que ça ne suffisait pas. Mais finalement, comme en Tunisie, ils n'avaient pas la place Tahrir. Alors qu'en Égypte, il y avait quand même un endroit où ils pouvaient tout de suite réduire la chambre de bataille. Donc, c'était quand même ça, plus le fait que quand même, il y a des millions de... Le Caire, c'est une ville énorme, donc... Les bassins de départ étaient plutôt énormes. Et donc, tout ça mis ensemble a fait que les nombres étaient vraiment gros du début. Donc,
Et oui, comme tu disais, on a beaucoup parlé, beaucoup échangé sur la place Tahrir, mais on a beaucoup chanté aussi. Ça, c'est assez, c'est quelque chose qui est, j'ai l'impression, assez propre à cette population aussi, parce qu'il y a cette liesse. On rit beaucoup et on chante beaucoup aussi. Il y a une vraie quelque chose d'assez étonnant dans cette occupation. Enfin,
ça c'est typique d'une certaine l'improvisation, les chants, c'est typique d'une certaine société égyptienne. Ils les font pour les mariages, ils les font dans les villages. C'est plutôt typique les figures du chanteur improvisateur. C'est quand même pas quelque chose qui est né avec la révolution, mais c'est une adaptation de quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui fait des blagues. Et les gens répondent au mariage, donc c'est quelque chose qui existe en Égypte, qui existait déjà dans la campagne électorale locale qu'il y avait quand même en Égypte. Donc c'était quelque chose qui a été tout de suite adapté avec beaucoup d'humour à la situation.
Et t'es arrivé combien de temps avant le début en fait des manifestations?
Et comment?
Tu es arrivé combien de temps après le début des manifestations?
Et bon, je suis arrivé le 29, alors qu'ils avaient commencé le 25. Donc, après 4 jours, qui étaient quand même 4 jours très importants, mais moi, je l'ai vécu à la télé. Après, j'ai dit, c'est trop tard, je vais partir quand même. Je vais voir la fin là-bas.
Et alors, dans le film, en tout cas, on ne voit pas vraiment de leader. On a l'impression que... Enfin, je ne sais pas si c'est juste une impression ou... comment se situaient les partis politiques, justement? Est-ce qu'ils avaient vraiment un rôle prépondérant, ou est-ce que vraiment ils suivaient le peuple?
Là, ils suivaient, sauf peut-être un peu les Frères musulmans qui sont suivis aussi, mais qui après se sont organisés un peu plus. Mais sinon, les autres partis n'avaient pas un rôle. Ils arrivaient après. Ils se faisaient aussi chasser des manifestants de la place, parce que quand même, c'était pas eux qui avaient commencé la chose. Et donc, mais même maintenant, il y a des partis qui sont organisés tout nouveau. Il y a les vieux partis, mais c'est clair que les mouvements n'est pas né des partis politiques. Tout le monde le sait en Égypte. Tout le monde s'en souvient, même si les partis après, ils sont bénéficiés de tout ça.
D'accord. Donc juste par rapport à la place, en fait, on voit les chars et puis des gens qui sont sur les chars. Enfin, donc l'armée n'a plus l'air d'être là. Enfin, comment ça s'est... On voit pas tellement par rapport à un moment donné. Enfin, dans l'actualité, à un moment donné, on a entendu, voilà, l'armée a sympathisé avec les manifestants. Ça, on le ressent pas trop dans le film. Enfin, je sais pas si.
Oui, à un moment, l'armée était là, mais sympathisait, mais en même temps, c'était très, c'était pas clair. Tous les jours, il y avait quelque chose. Donc, il y avait des moments où ils faisaient des arrestations, des moments où ils ne faisaient rien, alors que la place était attaquée par des gens de l'extérieur. Donc, c'était trouble jusqu'à la fin. Et c'est encore un rôle pas clair du tout, celui de l'armée. Donc, l'armée, c'est vrai qu'elle a joué un rôle. Et finalement, c'était grâce à l'armée aussi que Moubarak est parti, mais il ne voulait pas être non plus du côté de la place. Donc, il cherchait de se mettre entre la place et le reste de la société, mais en même temps avec beaucoup de citations et des moments où ils commencent à tirer en l'air. Le film commence quand l'armée commence à tirer en l'air sans raison, et ils menacent de rentrer dans la place pour réduire l'espace des manifestants. Et tous les jours, il y avait quelque chose comme ça. Donc, c'était quand même quelque chose qui n'était pas clair. Quand même, c'était pas du tout comme la police, parce qu'avec la police, il avait une confrontation ouverte, et après les premières 3-4 jours, n'était plus question de police. La police ne s'est plus vue. Mais avec l'armée, par contre, il y avait cette relation qui encore 8 mois après n'est pas résolue, parce que là, il y a l'armée au pouvoir en Égypte. Les Égyptiens disent c'est l'armée, et c'est une chose, les chefs de l'armée c'est une autre chose, donc l'armée avec nous, les chefs ne sont pas avec nous, donc c'est quand même un chapitre ouvert qui n'est pas résolu, et qui va dire beaucoup de la... Parce que l'armée a eu... Moubarak venait de l'armée, et avant lui, Sadat avait été mis là-bas par l'armée, et depuis le coup d'État de Nasser, l'armée a joué un rôle central dans la politique égyptienne et a quand même beaucoup de pouvoir du côté aussi économique. Donc l'armée, c'est le vrai point d'interrogation du futur de l'Égypte, avec les Frères musulmans, avec le reste de la société, mais le rôle de l'armée, que l'armée va jouer d'ici quelques mois, quelques années, c'est encore tout à écrire. Et c'est pour ça qu'à la fin du film, à la fin de cette histoire, il y a quelqu'un qui dit on part pas parce que l'armée est en train de nouveler la révolution de tout de suite. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas quand même... La réponse n'est pas dans ces films, parce qu'elle n'est pas là encore. Là, le film pose la question, et c'est vrai que c'est important de dire que ces gens se rendaient compte de tout de suite de ces problèmes. Donc... ils sont cherchés à faire face à ces problèmes, et ils vont chercher dans le futur de résoudre ces problèmes, surtout de ne pas se faire amener d'un régime à un autre régime militaire cette fois. Donc
en tout cas, merci. Enfin, c'est un film, moi, je trouve qui était super important, dans le sens de pouvoir être avec ces gens-là, d'avoir vraiment l'impression d'être au cœur de ces deux semaines qui ont été vraiment un moment super important. Et juste pour finir, je voulais te demander sur quoi tu travaillais en ce moment, au niveau de tes projets.
Mais non, là, pour le moment, je me repose un peu, parce que j'ai fini des films tout récemment. Donc après, je vais continuer mon film sur Gaza, que j'avais commencé avant, mais ça va être... avec la nouvelle année. Mais là, je vais enseigner un peu au Caire, déjà, après en Sicile. Je vais enseigner un peu, mais disons, réfléchir sur les choses à faire.
Merci.
Merci beaucoup. Radio Libertaire 89.4, vous écoutez toujours Un peu d'air frais. Les 26 et 27 novembre prochains, aura lieu à Saint-Denis à la Bourse du Travail, le festival Bobine Rebelle, pour sa seconde édition. Ce festival de documentaires d'auteurs sociaux et politiques vous présentera notamment le film La langue de Zara, réalisé par Fatima Sissani et mis en image par Olga Widmer, ici présente. Il y a donc à la technique aujourd'hui Amanda, Élise au micro et moi-même Emmanuel. Alors Fatima, est-ce que tu peux nous présenter ton film ?
Donc c'est un film sur l'immigration, un film sur les représentations. Moi j'étais partie d'un constat. Ma mère est une femme immigrée, donc c'est un film sur l'immigration à travers l'histoire de ma mère. Ma mère est une femme immigrée, donc des années 70, aujourd'hui 78 ans, ne sachant pas parler le français, ne sachant ni lire ni écrire. Et donc, voilà, ni le français, ni aucune langue.
D'accord.
Et donc... moi j'ai constaté au bout d'un certain temps qu'on l'a jugé aussi, mais comme on juge souvent les immigrés, et aussi souvent les gens de manière générale, à partir de la langue qu'ils parlent. Et donc ma mère parlant un français très boiteux, rudimentaire, eh bien on la prenait toujours pour une pauvre femme. La pauvre Zara, qui a élevé ses gosses, encore que ça ne me pose pas de problème que des femmes se consacrent à l'éducation de leurs enfants quand c'est un choix. Dans sa cuisine, faire la cuisine, quoi. La Zara dans sa cuisine ou la Fatma dans sa cuisine, selon le cliché européen de la femme immigrée. Moi je voyais bien qu'elle était quand même autre chose que ça, et même une véritable oratrice dans sa langue. Et donc là j'étais face à deux représentations quand même très différentes. Il y avait la mienne, et puis il y avait celle que je croyais être celle de la société française sur ma mère. Alors on pourra revenir si vous voulez sur les causes de telle représentation, par quoi c'est nourri. Mais je me suis dit bon, là et voilà, il faut en gros rétablir les choses. Il y a quelque chose à dire là-dessus, et de dire ces immigrés que vous prenez, en tout cas en ce qui concerne les hommes, juste pour une force de travail, et les femmes pour des femmes au foyer, avec tout le mépris qu'on a pour les femmes au foyer, ces gens-là ne sont pas que ça, et bien qu'analphabètes, ce sont de grands orateurs, ce sont de grands poètes, en tout cas en ce qui concerne les Kabyles, et je crois que c'est le cas de tous les immigrés venant de langue orale, ce sont tous des poètes en puissance. Donc, et je parle de la première génération surtout parce que évidemment après les autres générations c'est encore devenu autre chose. Là, le Kabyle, les gens même en Algérie ont baigné dans une véritable oralité, au moins jusque dans les années 80. Ensuite, il y a eu tous les programmes d'alphabétisation après l'indépendance qui ont fait que du coup la question de l'oralité se pose autrement même en Algérie. Donc cette première génération, elle est vraiment caractérisée, baignée par une oralité complète. C'est un peu l'histoire de ce film. Donc finalement, c'est à la fois un film qui s'adresse à la population immigrée parce que c'est vraiment, en tout cas moi je l'ai considéré comme ça, c'est pour moi une ode véritable à l'immigration, à la première génération d'immigrés. C'est un hommage que j'ai vraiment voulu leur rendre à travers ma mère, parce que ma mère n'est pas... c'est vrai que ce film tourne autour d'elle, mais c'est pas juste son histoire, c'est pas juste son histoire à elle. C'est aussi une histoire de l'immigration. Une histoire de l'immigration. Je dis pas l'histoire de l'immigration, mais une histoire de l'immigration. Elles sont nombreuses, toutes ces histoires-là. Et aussi une adresse à la société française en disant, en gros, finalement, regardez à côté de quoi vous passez. Mais ils s'en sont incapables parce que justement, ils sont enferrés dans des préjugés qui ont été nourris et d'une part, enfin d'abord par la colonisation, on pourrait remonter plus loin avec l'histoire de l'esclavage, mais c'est ça, c'est-à-dire que, et surtout pour les Algériens, on voit des indigènes, et des indigènes de la colonisation. Donc, du coup, c'est bon à rien d'autre qu'à travailler un indigène, quoi. Une femme à faire la cuisine et les hommes à...
Donc là, on est sur, quelque part, un petit peu, j'allais dire, la théorie du film, parce que c'est vrai qu'on parle de problèmes très, très, très ancrés dans l'histoire française, dans l'histoire algérienne, mais il y a aussi, enfin, moi, il y a quelque chose que je trouve très beau dans ce film, c'est que c'est vraiment très émouvant. On est vraiment quand même aussi sur le rapport d'une mère à ses filles, aussi sur des histoires de transmission. C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a énormément touchée sur cette transmission. Et du coup, donc toi, tu, en tant que réalisatrice, tu es souvent à l'image, à parler avec ta mère, donc avec Zahra. Et du coup, je voulais vous demander comment vous aviez organisé tout ça, donc puisque Olga, la chef opératrice du film, et donc de ce fait, il doit y avoir une grande relation de confiance entre vous deux, puisque toi, tu es devant la caméra aussi, donc tu c'est pas toi qui regarde dans l'écran le retour moniteur, et du coup, quel est votre rapport aussi de travail à toutes les deux?
On se connaît avec Fatima depuis je sais pas 15 ans. Donc c'est aussi une histoire d'amitié qui date. Mais ça a été une évolution. Au départ, c'était pas une évidence que Fatima serait devant la caméra. Au départ, elle était plus à côté. Et bon, ça, peut-être que je préfère que Fatima en parle de comment elle a senti ce. Mais c'est vrai que moi, ça m'a semblé assez évident que Fatima devait être avec sa mère pendant le temps des entretiens, quoi. C'était un échange plus qu'un entretien. Donc, un mode interview, quoi. Et c'était important aussi qu'elle soit avec, quoi, je pense, pour qu'elle puisse,
Et puis avec la langue kabyle aussi, enfin.
C'est pas tant l'histoire de la langue, parce que des films qui sont tournés dans une autre langue, par des gens qui la maîtrisent pas forcément. Bon, ça, on en a. C'est pas l'histoire de la langue qui a fait ce choix-là. Moi, Olga, c'est vrai qu'elle a été convaincue très vite, tout de suite, qu'il fallait que je sois à l'image. C'est vraiment une question qu'on s'est beaucoup posée. Et moi, je ne le souhaitais pas. Je voulais pas être à l'image. On en avait aussi parlé avec d'autres amis cinéastes et qui, en fait, moi, je m'étais même pas posé la question, à vrai dire. Et même d'autres copains cinéastes qui ont dit, mais voilà, est-ce que t'es à l'image, t'es pas à l'image? Comment, et du coup, et pour Olga, c'était aussi une question évidente, et la réponse, elle était très évidente pour elle, et beaucoup moins pour moi. Et donc, moi, c'était mon premier film, donc j'avais quand même peu d'expérience, j'en avais beaucoup moins qu'Olga, et donc, je me suis dit, bon, allez, on essaie comme ça. Je ne sais pas, complètement convaincue, mais je lui ai fait confiance, en fait. Je me suis dit, bon, c'est peut-être le bon dispositif. Et effectivement, et après coup, c'était le bon dispositif, parce que on aurait eu, je pense qu'on aurait eu un autre film si j'avais posé des questions en la filmant. Ça aurait donné. C'est vrai que pour le coup, dans ce film, d'avoir choisi ce dispositif fait que elle s'adresse vraiment à moi et elle est pas du tout. On n'est pas du tout dans une mise en scène. Et c'est ce que je dis tout le temps, c'est que finalement dans ce film, c'est moi qui me mets en scène parce que pour moi, c'est quelque chose de pas du tout naturel. Et donc, elle me parle très naturellement. Je veux dire, ma mère, la caméra. Elle s'en fiche, mais ça, c'est aussi la présence d'Olga, c'est aussi son talent qui fait que, bon, voilà, elle s'en fiche, mais complètement de la caméra. Elle se fiche, il y a un preneur de son qui est là aussi, qui perche, et elle s'en fiche aussi, et lui aussi a vraiment a aussi une belle présence sur pendant ce film. On le voit pas, Olivier Crabbé, et elle le voit pas non plus. On est toutes les deux et elle me parle comme elle m'a toujours parlé en fait, comme on se parle à chaque fois qu'on prend le café ensemble le matin. Et parce que c'est sa culture aussi. On est dans une culture où on parle. Et c'est naturel de parler. C'est naturel de...
On prend le temps de parler.
On aime ça. Et du coup, pour elle, il n'y a pas de problème. Donc finalement, voilà, c'est celle qui se met en scène, c'est moi. C'est pas du tout elle. Parce que bon, moi, je... C'est ma culture d'origine, mais ma culture dominante, c'est la culture française. Et du coup, moi, je suis vraiment quand même quelqu'un de l'écrit. Et donc, comme ça, ces temps d'échange, pour moi, ça l'est moins aussi, parce que j'ai été élevée dans une société, la société française, où la parole, finalement...
L'usage n'est pas le même.
L'usage n'est pas le même. Voilà, l'usage n'est pas le même, sans idéaliser l'une ou l'autre forme. Moi, j'ai pas du tout envie de tomber là-dedans. Mais en tout cas, on est dans autre chose. Donc voilà, ce dispositif d'être devant la caméra, ça a été quelque chose. Ça a été finalement un peu quand même un tâtonnement.
Dans le pilote, je me rappelle plus. Il y a eu un pilote que j'ai vu sur internet. Je sais plus si tu étais à l'image.
Ça. Non, j'y suis pas.
Et... Si. Exact. Si, justement, en fait, tout de suite, finalement, en fait, c'était là cette idée que tu serais avec elle, quoi. Mais c'est finalement quelque chose qu'on a moins exploité dans le film. C'était ce côté de l'aide des enfants, en fait, que les enfants sont aussi presque des parents pour leurs parents, quoi. Parce que justement, il y a cet handicap. De ne pas pouvoir lire. Donc Fatima doit l'aider à retrouver les numéros et tout. Et finalement, ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas du tout.
On l'a
moins filmé. Quoi.
Et vous avez filmé sur combien de temps, sans parler du pilote
En fait, pas si longtemps que ça. Hein. Sur le premier tournage qu'on a fait en banlieue nord, donc chez ma mère, il dure 10 jours. Et donc on y est tous les jours. C'est-à-dire qu'on s'est installé là, on s'est installé chez elle et on était là tous les jours. Et en Algérie, on a tourné 3 semaines.
D'accord. Parce qu'on sent aussi quand même si la caméra n'est pas vraiment dénoncée, je me rappelle, je ne sais pas si c'est ton neveu ou un jeune garçon qui rentre à un moment et qui va pour te dire bonjour à la caméra, puis qui se retient un petit peu parce que bon, il doit sentir que c'est pas là qu'il faut le faire et tout. Mais alors que je me rappelle donc la scène en Algérie où vous êtes assis sur le balcon, vous parlez des olives, et là Zahra a un regard vers la caméra qui vraiment t'intègre complètement dans le dispositif, et du coup je me suis demandé combien de temps il avait fallu pour arriver à ce regard carrément complice, enfin, où il n'y avait aucun problème. La situation était à trois, quoi, finalement.
Pas longtemps, parce que, encore une fois, en fait, ma mère, elle accepte de faire ce film. Enfin, c'est même pas tant qu'elle accepte. Elle laisse faire, en fait. Elle sait pas ce que c'est de faire un film. Elle sait pas ce que c'est.
Elle te fait confiance.
Voilà, quand je lui dis, écoute, on arrive à trois... filmer, bon, d'accord. Et voilà, je la préviens. En fait, finalement, je la préviens juste qu'on va être trois de plus à la maison. Parce que finalement, ça se pose pas. Vous savez, c'est comme quand vous proposez à quelqu'un de faire quelque chose dont il n'a aucune idée. Et donc, vous avez, il y a aucune idée des questions qu'on peut poser, en fait. Et donc, je sais pas, ce serait comme d'aller faire un entretien sur les poissons, je sais pas, dans une rivière d'Amazonie, mais vous dites, mais quelles questions je vais pouvoir poser, on n'y connaît rien. Et donc, elle, un film, elle sait pas ce que c'est de faire un film, donc du coup, elle me dit, bon, bah, d'accord, quoi, alors elle va arriver à la caméra, elle va arriver à tous les câbles, partout dans la maison, mais ça lui pose jamais question. Et donc du coup, je suis sa fille aussi,
oui,
donc
c'est pour ça qu'elle accepte
du coup aussi. Voilà, il y a aucune méfiance possible. Donc après elle connaît Olga, elle l'a vu régulièrement. Donc voilà, et puis on a affaire, Olga, Olivier Crabbé, ces gens qui sont pas du tout intrusifs. Mmh. Voilà,
comme tu disais, ça te pose plus de problèmes à toi d'être devant la caméra qu'à elle, qui ne.
Voilà,
pas
et donc du coup, quand elle regarde Olga, quand il y a ses regards caméra, elle regarde Olga parce qu'elle est dans la maison, quoi. Voilà,
ouais. Peu importe qu'il y ait une caméra ou pas.
Oui, voilà, elle, ça lui pose pas, elle se pose pas la question. Il faut pas que je. Si, il y a juste une fois le diable, il faut peut-être pas parler parce qu'on est filmé quand elle.
Mais c'est ta sœur qui dit ça, non ?
Non, c'est ma mère qui lui dit ah mais il faut peut-être pas qu'on parle parce qu'on est filmé. Et là, Samira lui dit mais non, justement il faut parler, pour que les gens se rendent bien compte comme je parle mal. Mais ça fait plus rire qu'autre chose, quoi. Donc et elle avait absolument aucune idée de ce que ça allait, de ce que ça allait être ce film, aucune idée. Et elle, jusqu'à la première, elle l'avait pas vu. Moi, j'avais fait ce choix-là de ne pas le lui montrer avant. Et du coup, elle était hyper contente du résultat, mais elle s'attendait pas du tout à ce que ce soit, ça. Et il y avait une femme kabyle, une vieille amie de mes parents, qui a toujours été là depuis. Quand on arrive en France, ils étaient aussi dans le quartier. Et elle m'a dit, mais comment vous avez fait pour raccrocher les images. Alors, comment vous avez fait ? Il y a l'Algérie et il y a la France. Alors, comment vous avez fait ? Je comprends pas. Je comprends pas. C'est bizarre. Voilà. Non, mais on est vraiment. Ces gens, ils savent pas quand on fait du cinéma, quoi. Donc,
mais faut dire que c'est. Enfin, le montage est super intéressant sur les passages entre la France et la Kabylie, parce qu'on est vraiment sur ces passages à travers les fenêtres, à travers l'imaginaire de Zara et tout. Est-ce que ça, c'est un truc que t'as écrit dès le départ, ou est-ce que c'est venu après les tournages ?
Ce va-et-vient.
Sur les scènes de cuisine aussi, souvent sur les préparations de repas. Passe d'une cuisine en banlieue à la cuisine en Kabylie.
Je crois qu'on. Non, en fait, parce que en plus, on avait. Au début, on était parti pour filmer que en France.
D'accord.
Et parce que pour moi, c'était un film sur l'immigration. Et donc, je voulais faire un sorte de huis clos sur l'immigration. Donc, dans son appartement. Et finalement, c'est marrant ce que j'avais fait lire le synopsis, enfin la note d'intention à une copine qui est syrienne, qui est cinéaste à la Bal Abdallah. Et elle m'a dit « Mais je comprends pas, tu filmes pas en Algérie ?» Je lui ai dit « Bah non, non, je suis pas filmée en Algérie. » Elle m'a dit « Mais c'est quand même dommage. » Et on en avait parlé en même temps, et avec Olga. Et j'étais pas en plus très à l'aise de filmer en Algérie. Je maîtrisais pas forcément le contexte, le milieu. Pour moi, c'était compliqué. C'était compliqué techniquement à envisager. C'était compliqué émotionnellement. C'était compliqué vraiment par bien des aspects. Et c'était beaucoup plus confortable pour moi de filmer en France. Et puis parce que vraiment aussi j'étais convaincue que ce dispositif de cette sorte de huis clos. Et puis en fait, Ala avait finalement évoqué ça avec. Pour elle, c'était tellement une évidence qu'il fallait filmer en Algérie que du coup, en fait, c'est là que j'ai commencé vraiment à y penser sérieusement. Et puis en plus, c'est compliqué l'Algérie. C'est un pays où la violence est omniprésente et puis après en plus d'emmener des gens avec moi, d'emmener Olga, d'emmener Olivier Crabbé dans ce contexte-là que je maîtrisais pas forcément, j'avais pas peur qu'il leur arrive quelque chose, sinon je l'aurais pas fait de toute façon. Si j'avais eu le moindre doute qu'il puisse arriver, il leur arrivait quelque chose, ça de toute façon j'aurais jamais pris cette responsabilité là mais j'étais pas complètement à l'aise et du coup ça a été vraiment une très très longue hésitation. Et puis après, du coup, quand j'ai commencé vraiment à y penser sérieusement, on s'est dit, allez, Olga était complètement partante voilà, donc du coup, on a décidé d'aller filmer là-bas. Donc on n'avait évidemment pas envisagé ce va-et-vient quand on a évoqué la réalisation de ce film. Et je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose là-dessus, Olga.
Par rapport au va-et-vient, c'est vrai que on n'avait vraiment pas idée comment ça allait être monté, mais c'est vrai qu'on n'avait pas encore rencontré de monteuse à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'on s'est toujours posé la question, comment mettre en scène, comment filmer l'Algérie d'une part et la France d'autre part. Et pour ne pas tomber aussi dans une sorte d'idéalisation de la beauté de l'Algérie, de la Kabylie, surtout que c'est magnifique. Il fallait trouver un moyen. Du coup, moi, Fatima m'avait donné un peu des choses, des indications. Elle m'avait montré des photos et elle m'avait aussi bien expliqué les rêves que sa mère pouvait faire ou comment elle était. Et du coup, ça m'a aidé à imaginer les plans qui pouvaient se faire là-bas, en Algérie et aussi à Hermont. Et moi, ce qui me semblait super intéressant par rapport à l'immigration, c'était filmer Zahra qui regarde l'au-delà, enfin, qui regarde finalement l'autre rive. Et du coup, j'ai toujours essayé de la filmer dans des, enfin, quand elle est à la fenêtre, dans des encadrements de portes. Enfin, je trouvais que ça marchait assez bien, ça, ouais. En fait. Voilà, quand elle est en train de penser.
Ça marche tellement bien qu'à un moment on oublie et d'un coup je dis tiens mais en fait là je suis en Kabylie, j'étais en banlieue parisienne il y a pas longtemps, comment ça, enfin moi je me suis fait la réflexion plusieurs fois comment, puis mais en même temps il y a aucun problème quoi, parce que effectivement justement par l'imagination de Zahra et puis comment elle porte tout cet univers là, on fait le voyage avec elle comme elle doit le faire j'imagine plusieurs fois dans une même journée et tout, de se retrouver dans cet univers, dans cette terre quoi qui est très présente.
Moi je trouve qu'on a une sensation de transition très fluide justement, moi j'ai été très touchée par les raccords qui se sont faits autour de la pluie et de la lune et qui sont même tellement beaux que moi je n'ai même pas compris qu'on était passé d'un monde à l'autre, j'ai compris plus tard et ça porte en fait, tout d'un coup il y a quelque chose qui fonctionne très bien et qui n'oppose pas les deux mondes, on n'a pas l'impression d'une espèce de rupture ou de confrontation et c'est ça que j'ai beaucoup c'est à ça que j'ai été très sensible dans votre film, c'est qu'il n'y a pas de rapport frontal, intrusif, l'interview se fait pas de manière frontale, on a l'impression qu'on prend un morceau de conversation pendant, ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est qu'il y a aussi des tas de moments où il n'y a pas de parole, on est en train de faire à manger, on est en train de masser. Il y a des tas de choses un peu à bâton rompu qui du coup semblent très très confiantes en fait. Et puis il n'y a pas de clash quoi, d'espace. Et ça c'était très précieux à voir parce que du coup on a l'impression qu'on est dans la même culture ou en tout cas dans le même imaginaire. Il y a une espèce de
Je pense que surtout on accède à la richesse de cet univers, parce qu'on n'a pas encore parlé de poésie, mais c'est quand même ça qui est très présent tout le long, avec ses chants, avec Dalila, la cousine, qui est dans ses chants et qui invente des poèmes magnifiques, et on est toujours avec cette présence de la langue qui est d'une richesse incroyable, quoi.
C'est vrai, mais je voudrais juste revenir sur cette question des rythmes et des va-et-vient. Bon, alors d'abord, il faut rendre hommage à la cour, hein, quand même, la monteuse du film, parce que ça a été vraiment, ce qu'elle a vraiment apporté, comme ça, cette subtilité-là. Après, une fois qu'on avait tourné tout ça, quand on était au montage, c'était évident que du coup, il fallait instaurer ce va-et-vient. Moi, je l'avais vu moins tôt que Anne, mais finalement, elle a eu raison. Et puis surtout, et justement, sur cette histoire, je crois qu'il y a beaucoup en fait, de douceur qui se dégage de ce film. Et il y a un rythme vraiment très particulier que Anne a immédiatement saisi en voyant les images. Elle a dit là, il y a un rythme qui s'impose, on ne peut pas faire autrement. Quoi. Qui est le rythme de ma mère, quoi. Mais qui est aussi un rythme aussi paysan, finalement. Et de prendre le temps. On a bien les pieds sur terre et on avance, quoi. On avance tranquillement. Et après, il y avait aussi cette histoire de... pour moi, c'était évident, et c'était une discussion, comme l'a dit Olga, il n'était pas question de dire « Ah, regardez comme c'est beau l'Algérie, regardez comme c'est moche la banlieue. » Ça, c'était hors de question. Et parce que ce n'est pas la réalité de l'immigration. C'est-à-dire qu'on est dans la société française à regarder les immigrés comme des gens qui vont forcément repartir au moment de la retraite. C'est faux. Les gens ont passé 40 ans ici.
ces 40 ans de leur vie. Je veux dire, ils s'enracinent aussi. Ils s'enracinent aussi en France. Ils s'enracinent aussi dans
même
le foyer.
Même si Zara n'a jamais voulu rester.
Même si elle n'a jamais voulu rester, mais n'empêche qu'elle n'a jamais décidé de repartir. Une fois qu'elle a pu repartir, c'est-à-dire que quand nous, on est devenus adultes, qu'on a construit nos vies et tout, il n'y a rien qui l'empêchait, finalement, de... Sauf que, voilà, effectivement, elle a ses enfants qui l'empêchent de... on aurait tous été là-bas, effectivement. Alors, parce que c'est aussi ça, ce choix. Le choix, c'est celui des enfants. Mmh. On est beaucoup plus ici, il y en a deux là-bas, il y en a six ici. Bon, ben voilà. Mais surtout, mais en même temps, mais il n'y a pas que ça non plus. Elle a son appartement. Elle a son appartement où elle vit seule, avec mon neveu, avec Fouad. Mais... elle organise sa vie comme elle a envie. Mmh. Et quand elle va en Algérie, elle va dans la maison familiale, elle va chez mon frère qui n'est pas chez mon frère, qui est la maison familiale. On est tous nés là. C'est nos parents qui l'ont construite, cette maison. Donc, mon frangin ne se considère pas du tout comme chez lui exclusivement. C'est-à-dire, on est là, on est dans la société arabe, là. Pour le coup, la maison, c'est le lieu d'une famille élargie. Bon, et là, on n'est même pas une famille élargie, puisque c'est les frères et sœurs. Donc, elle est chez elle, quand elle est... elle considère d'ailleurs que c'est... elle considère que c'est sa maison, c'est sa terre. On est dans un rapport à la terre aussi, ouais. Par rapport jardin, à l'Algérie. Je veux dire, c'est pas l'Algérie. C'est pas le territoire algérien, c'est pas la patrie, c'est pour le coup la terre, le lopin de terre. Ouais. C'est ça qui est important. On est en ce rapport-là à l'Algérie. Chez nous, on dit le pays, on dit Samourf pour dire qu'on va en Kabylie. Si on est à Alger pour dire qu'on va en Kabylie, on dit Samourf, on dit le pays. On dit le pays parce que le pays, c'est la terre. Voilà. Et donc aller dans ce rapport-là, dans ce rapport-là à l'Algérie. La France, c'est son contexte. Et du coup, et c'est vrai qu'Olga, elle a fait des superbes images de la banlieue. On a des ciels magnifiques. Mmh. Et c'est vrai que c'est rare de filmer...
Mais d'ailleurs, souvent, le passage de l'Algérie à la banlieue, ou plutôt dans l'autre sens, ça se passe sur des histoires de lumière aussi, qui sont très belles d'un côté et de l'autre. Et voilà. C'est par cette poésie qu'on y rentre, enfin, qu'on voyage aussi là-dedans.
Et, exactement. Et c'est parce que c'est vrai que c'était dur. C'est un paysage époustouflant, la Kabylie. C'est un paysage époustouflant. Mais voilà, mais c'est au final... c'est important ce paysage-là parce qu'il enracine les gens. Il enracine les gens. La montagne, ça enracine. C'est comme la mer. C'est fort. C'est des relations fortes. Et mais en même temps, on n'avait pas du tout envie de tomber dans cette espèce de cliché qui, pour moi, est insupportable. Et du coup, et je veux dire, si elle est donc enracinée aussi dans la société française. Pour x y raison. Donc voilà, on n'avait pas dit son contexte pourri en France, ou aller toute seule, ou aller ceci, ou aller cela. Mais la solitude, elle fait aussi partie de l'immigration. Et ma mère, elle dans son appartement, elle vit aussi dans une forme de silence. Et qu'elle n'a pas forcément choisi, mais n'empêche que ça fait voilà, parce qu'on n'est pas tous là, parce qu'ici on a nos vies. En Algérie, effectivement, elle serait entourée toujours par des gens. Mais n'empêche qu'en 40 ans, elle a construit sa vie, autrement. Ouais. Donc elle est comme nous tous, quoi. On part, on aime bien revenir dans notre petit chez-nous. Ouais. Hein, elle n'est pas différente des autres. Et pour moi, c'était vraiment important de rendre compte aussi de cette réalité-là qu'on nie de manière assez insupportable, et parce qu'on encore une fois, on dénie à l'immigré et notamment à l'Africain de s'enraciner ici. Exactement. Sur le territoire français. Ouais. Et on est aussi c'est cette histoire-là aussi qui raconte ce film.
Ouais. On lui dénie de s'enraciner et d'être de grande culture, quoi. On lui dénie aussi ces vers qui arrivent dans la cuisine.
C'est carrément ignoré. Mais c'est vrai que, je veux dire, quand on maintient des immigrés dans les lieux comme les foyers, les foyers, notamment les anciens foyers Sonacotra, donc dans des conditions absolument hallucinantes.
Conditions censées être de passage et non pas de vie, en fait.
Voilà, c'est ça. Et finalement, on considère tout le temps que c'est comme ça. Mais c'est des gens qui sont vraiment dans le va-et-vient, par excellence. Et donc, qu'on leur rende leur vie confortable ici aussi, parce que de toute façon, ils reviendront toujours ici. Ouais. Ils le disent tous, ils disent, moi j'ai besoin d'aller jouer aux cartes, j'ai besoin d'aller fumer ma clope au bar, d'aller lire le journal, de retrouver les copains et puis de retrouver dans la chambre aussi plus ou moins tout seul. Et voilà, et la chose qui leur fait peur, c'est de mourir seul, les immigrés. Mais après, tout le reste, voilà, cette solitude, elle fait partie de leur quotidien. Donc, voilà. Donc, du coup, pour nous, c'était aussi cette histoire-là. Et ça a été une longue discussion aussi avec la monteuse. Parce que finalement, ce film, il recèle beaucoup de pièges dans lesquels il fallait pas tomber. Mmh. Donc, il y avait le premier, c'était celui-là. C'était la banlieue, c'est moche, la Kabylie, c'est magnifique. Non. Donc, du coup, ça a été une discussion avec la monteuse en disant, moi, je lui ai dit, surtout, je ne veux pas qu'on tombe là-dedans. Ça a été aussi une discussion avec le mixeur.
D'accord.
Il y a eu une discussion aussi là-dessus. Et puis après, c'est l'exotisme.
Oui, bien sûr.
Regardez.
C'est-à-dire de ne pas envisager les lieux comme des lieux de vie, mais comme des lieux dans l'absolu, pas habités par une présence humaine avec exactement. Une histoire.
Mais l'exotisme aussi par rapport à la langue. L'exotisme par rapport à la langue, quoi. Regardez, comme Issoumbo, quand il parle. Enfin, c'était un truc d'en faire aussi quelque chose de vivant aussi. Et du coup, donc ça a été comme ça une, à la fois, moi, j'ai complètement fait confiance à la monteuse, vraiment. Mais c'est vrai que, voilà, moi, j'avais une vigilance plus...
Mais j'allais dire que t'as une vigilance aussi qui est interne, même pas au film, mais à votre famille, entre ta sœur et toi, notamment, qui vous interrogeait vachement aussi sur votre rapport à la langue et au français. Enfin, tes deux sœurs qui ont des positions très différentes, d'ailleurs, sûrement aussi différentes de la tienne, sur le fait de transmettre le kabyle et de vouloir absolument que son fils ait aussi cette culture. Alors, voilà, en même temps, il est français, enfin, c'est pas simple non plus.
Bah, disons que moi, je dis toujours, parce que je crois qu'on ne perçoit pas la subtilité de tout ce que disent. Elles ne sont pas sur des positions différentes, Malika Semira. Elles ne sont pas sur des positions différentes. Elles sont exactement sur la même position. Simplement, Malika, elle dit une partie du propos. Samira, finalement, elle poursuit. Et Malika partage. Mais Samira, elle dit pas... Samira ne parle pas quasiment pas le kabyle. Elles se comprennent avec ma mère parce qu'elles ont un langage affectif. Mais elle dit pas qu'elle veut que son fils parle le kabyle. Elle dit qu'elle veut qu'il reconnaisse qu'il est d'une autre culture. Elle dit pas... D'ailleurs, on n'avait pas gardé ça. Elle dit, mais moi, je veux pas être plus royaliste que le roi.
Ouais.
Moi, je parle pas le kabyle. Je veux pas attendre que mon fils le parle. Comment il va le parler? Non, elle dit, je veux qu'il reconnaisse qu'il est d'une autre culture aussi. Il est français. Il a la culture française. Il est aussi.
Ah oui, d'accord. D'accord, je fais une approximation.
On l'aperçoit pas. Et la plupart du temps, elle n'est pas perçue cette nuance qu'elle apporte. Ouais. Mais elle est de taille.
Bien sûr.
Elle est de taille. Elle dit voilà, je veux qu'il sache qu'il est aussi d'ailleurs et que c'est ça qui va le construire, c'est-à-dire qu'il est porteur, d'une autre culture. Et je crois que ce film, il y contribue en fait aussi, parce que voilà, on se raconte pas d'histoire. Il a 6 ans, son fils, il a 6 ans. Ma mère en a 78. Je veux dire, voilà, les règles de la vie étant ce qu'elles sont, ma mère va disparaître à un moment ou à un autre. Et lui, nous, on n'est pas... Moi, je veux dire, moi, je parle relativement bien le kabyle, mais si j'avais un enfant, je serais incapable de lui parler en kabyle, parce que la langue de l'enfant, la langue qu'on a avec son enfant, c'est la langue de l'intimité. Et la langue de l'intimité, c'est celle avec laquelle on pense. Et donc, nous, on pense en kabyle, quoi.
Donc, on espère bien, parce que nous, on a beaucoup aimé le film, on a eu la chance de le voir, voire de le voir plusieurs fois, donc il y a du sas une première fois, et puis hier, encore, on s'est refait un petit visionnage, donc on espère bien qu'il sera à Bobine Rebelle. On a eu un petit changement de date, dont on ne vous a pas encore prévenu, mais qui serait donc le week-end d'après, le 26 et 27 novembre. On en reparlera peut-être, savoir si c'est encore possible pour vous, mais en tout cas, merci beaucoup pour ce film, moi, c'est un film que je trouve très beau et qui m'a énormément touchée, et qui est un film... Oui, qui est un film magnifique. Et on pourrait faire une dernière petite question. Il y a très peu d'hommes dans ce film.
Ah oui, c'est la question qui revient tout le temps.
Elle est bien. Hein.
Mais il y a une femme qui m'a même dit, mais ils ne sont pas présents, ils sont carrément éjectés.
Oh non,
elle dit ça. Bon, j'ai pas fait exprès. Oui. J'ai, ça c'était trouvé, voilà. On a finalement un peu filmé les gens qui passaient par là. Et voilà. Et il n'y a pas d'hommes qui sont passés par là.
Je ne sais pas si on peut en tirer des conclusions. Je ne pense pas, mais cette parole et le milieu des femmes, c'est aussi intéressant, quelque part.
Ah, mais moi, je trouve ça intéressant. Et c'est aussi ce que je dis tout le temps, c'est que moi, les univers féminins, moi, j'adore les univers féminins.
Les cuisines.
Moi, j'adore. Ouais, les cuisines. Et moi, j'adore être avec des femmes. Donc, du coup, voilà, moi, ça me c'est pas non plus, c'est vrai que c'est peut-être pas un hasard.
C'est pas un hasard,
je sais
pas, oui, c'est ça.
J'en sais, franchement.
Sans être prémédité, oui.
Ouais, je sais pas, en même temps, moi j'avais fait une émission pour France Culture sur les vieux immigrés avec des hommes. Hein. Donc, voilà, moi je crois que j'ai aussi une manière de fonctionner un peu comme ça, quoi, espèce de focus.
Et peut-être aussi, mais je suis un peu curieuse, est-ce que vous avez d'autres films en préparation?
Alors oui, on a un film qui est en train de se dessiner, mais il y a c'est pas encore bien clair.
On n'en parle pas encore.
sur la situation sociale en Algérie. Et je dois dire que là, pour le coup, je suis quand même très contente à l'idée de ne pas être à l'image. C'est comme ça que je me rends compte que ça n'a pas été si simple. Ça n'a pas été simple pour moi. C'est vrai que c'est un peu un soulagement, justement, d'être de l'autre côté.
En tout cas, votre présence à l'image, elle fonctionne très bien. En tant que spectateur, il n'y a pas de... Et ça fait même une espèce de relais, en fait, entre Olga, qui est derrière la caméra, et le spectateur et votre mère. Ça fonctionne de manière très fluide.
Ouais, mais c'est vrai qu'on peut le voir aussi comme ça, ouais, effectivement, que ça apporte ça. Ouais.
En tout cas, merci beaucoup, Fatima Sissani, réalisatrice de la langue de Zara, et Olga Widmer, la chef opératrice.